Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 23 novembre 2007. Trois thèmes sont au menu de l'émission du ce soir. Au nord Kivu, l'armée congolaise et la MONU optent pour un désarmement forcé des troupes de Laurent Kunda. La presse a aussi évoqué cette semaine les manœuvres militaires des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, manœuvres qui se sont déroulées la semaine dernière à Moussoro au Tchad. Enfin, la RDC a annoncé cette semaine sa candidature pour l'organisation du sommet de la francophonie 2010. Quatre confrères sont là pour analyser avec nous les faits d'actualité marquants de cette semaine. Simon Kabamba, directeur à la radio RTGA, radio-télévision Groupe L'Avenir, émettant depuis Kinshasa vers les autres provinces du pays. Mathieu Koukoudi, éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, paraissant Tamatadi au Bas-Congo. Fidel Moussangou, coordonnateur des rédactions du quotidien Le Phare, paraissant Kinshasa. Et Francis Wabout, chef du service économique de radio Liberté de Brazzaville au Congo-Brazza. C'est jeudi à Rougarou, au nord Kivu. Il y a encore eu des échanges de tirs entre des éléments de l'armée nationale et des insurgés fidèles à Laurent Kunda. Mais cette semaine à Goma, au nord Kivu, au cours d'une conférence de presse, la MONUC et les FARDC ont annoncé le désarmement forcé des éléments de Laurent Kunda. Écoutons d'abord le général Babacar Gaye, commandant des forces de la MONUC, au micro de Jeune Gala.
Je sais que chaque fois que les choses ne vont pas bien, la MONUC est vraiment celle qui est portée responsable. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant que toutes les voies pacifiques ont été explorées, sans résultat autre que quelques centaines de gens qui se sont rendus volontairement, eh bien, nous allons rentrer dans une phase où il n'y a pas d'autre solution que de contraindre les gens à aller au brassage sans délai et sans condition. Nous rentrons dans une phase de contrainte. Voilà ce que je veux dire.
Suivons maintenant les propos du chef d'état-major général de FARDC, l'armée nationale, le général Kayembe, qui parle de l'élaboration en concertation avec la MONU d'un plan pour obliger de force les troupes de Laurent Kunda à se rendre au brassage. Il est aussi au micro de notre confrère Jules Ngala.
Maintenant que toutes les voies de persuasion, toutes les voies pacifiques ont été épuisées, je suis venu précisément établir les plans pour la contrainte, pour l'usage de la force. Nous exécutons ce travail de conception de planification avec la MONU. Vous voyez à mes côtés non seulement le commandant de la MONU, mais vous voyez aussi bien le commandant de la division S de la MONU. C'est pour vous dire le sérieux qui est accordé à ce travail de conception de planification.
Fidel Moussangou, je rappelle que vous êtes coordonnateur de rédaction du quotidien Le Phare, paraissant ici à Kinshasa. Pourquoi, d'après vous, ces changements de ton de la part de FARDC et de la MONUC?
Je suis désolé de voir que la MONUC, qui a une mission de pacification, ait opté la voie de la contrainte. Une voie qui ne lui est pas accordée par les textes qui l'instituent au Congo. Aucune résolution ne donne cela. Surtout quand il s'agit des forces congolaises. Il s'agit des insurgés.
Mais il y a aussi un mandat qui demande à la MONU d'assister les forces armées.
Le problème, assister, ça ne veut pas dire utiliser la contrainte. De un, de deux, le dernier accord qui a été signé à Nairobi a plutôt parlé des forces interarmées qui constituent le pôle, donc l'épicentre de la sécurité, de l'insécurité à l'Est. Et si. Et puis, ce sont des étrangers irréguliers. Il faut qu'il y ait un distinguo. Nous avons affaire à des forces étrangères irrégulières établies sur le territoire congolais et qui causent des dégâts matériels et humains graves. Ces forces, j'ai toujours préconisé la voie de du dialogue. Parce que,
avec Laurent Kunda, au moins avec
les FDR, les interarmes, il faut toujours négocier. Pourquoi? Parce qu'il est établi que ces forces ont des liens quelque part avec le pouvoir en place.
Mais il est clair qu'ici, on parle d'abord des forces de Laurent Kunda pour les obliger à aller.
L'accord parle de Zitéramoué. Parce que si on résout le problème de Zitéramoué, on aura résolu 85% des problèmes des Kunda. Si les Zitéramoué sont neutralisés ou quittent le Kivu, maintenant, ça fait un problème qui résout deux autres. Les 15 000 réfugiés Tutsi congolais qui sont au Rwanda, au Burundi, au Uganda peuvent rentrer dans leur foyer d'origine parce qu'ils sont pacifiés. Ensuite, on va venir régler le problème des Kunda pour le brassage en utilisant la même voie qu'on a utilisée pour Karim Ngoudjolo et pour Peter Karim et pour Ngoudjolo. Et c'est la façon de négocier. Mais là, la MONUC, imaginez si la MONUC déclenche des hostilités.
Rapidement, s'il vous plaît.
Et que les forces des Kunda ont les dessus, comme elle vient de le montrer il y a deux jours. Et on massacre les gens de la MONUC. Et que Kunda prend des éléments de la MONUC en otage. Kunda s'empare des hélicoptères. Et c'est une grande. C'est un désaveu de l'opinion internationale.
Merci beaucoup, Fidel Nsango. Le commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye, a déclaré lors d'un point de presse tenu mercredi dernier à Goma, en Nord-Kivu, je le cite : toutes les voies pacifiques ont été explorées et nous allons passer à une phase de contrainte. Nous entrons dans une phase d'opération qui a pour but de permettre aux populations de retourner dans leur village. Est-ce que cela signifie, comme l'avait également dit le chef de l'État, que toutes les carottes ont été consommées? Simon Kabamba, vous êtes le directeur à la radio RDGA.
Merci Claude, je crois que tout a un temps. N'est-ce pas, on a pu quand même accorder assez de temps à Laurent Kunda pour prouver sa bonne foi, n'est-ce pas, en intégrant le processus de désarmement volontaire. Et aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à sacrifier nos milliers de populations en les laissant vivre dans n'importe quelle condition, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Laurent Kunda qui s'est levé contre les institutions établies et qui va continuellement, n'est-ce pas, continuer à narguer, pas simplement la République démocratique du Congo et son chef d'État, mais aussi la communauté internationale qui a déployé beaucoup de moyens pour que les Congo aillent aux élections, retrouvent des institutions démocratiquement élues. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient braver tous ces efforts-là. Moi, je crois que la décision qu'a prise la MONUC avec les FARDC, c'est une solution qui était attendue depuis de longues semaines au Nord Kivu. Et je me dis, je n'ai pas peur que si la MONUC effectivement essaie de travailler en concertation avec les FARDC, on mettra fin une fois pour toutes à ces phénomènes. Et ça ne servira plus des taches d'huile dans d'autres provinces, parce que si on n'arrive pas à résoudre ces cas par la force, quelqu'un d'autre va se lever un jour dans les Kasaï pour narguer les institutions établies. Il va dire, Laurent Kunda, on a pu négocier, et moi aussi j'ai droit à ces mêmes négociations. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on utilise la force pour en finir une fois pour toutes.
Mathieu Poukoudi, je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, paraissant Kamata du Bas-Congo. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment donné le temps à la négociation, aux voies politiques, pour résoudre ce problème de Laurent Kunda notamment?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le dernier accord, celui le plus récent, c'est l'accord de Nairobi au Kenya, où il était bien stipulé que il faudrait négocier avec les hommes de Laurent Kunda et éventuellement négocier pour le rapatriement de FDLR. Maintenant, en fait, moi, je pose le problème à deux niveaux. C'est-à-dire, on doit négocier sur le rapatriement des éléments de FDLR ou des Interahamwe. Et avec Laurent Kunda, ça, c'est un problème purement congolais. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit également négocier. Toutes les voies de négociation ont été épuisées. Et je le répète, et je l'ai toujours dit, que l'État souverain qui n'arrive pas à se ses citoyens dans les limites de ses frontières n'existent pas. Donc, le recours à la force serait la dernière solution, étant donné que Kunda voudrait larguer 60 millions de personnes. Vous voyez, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on y arrive et qu'on en termine une fois pour toutes pour que cela serve d'exemple au moment où nous sommes tous passés aux élections et qu'il y a des institutions démocratiquement élues.
Merci beaucoup, Mathieu Poukoudi. Je reviens à vous, Fidel Nsango. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le fruit des pressions de la population qui voudrait rentrer notamment chez elle?
Ce problème est à évaluer à deux niveaux. Le premier niveau est celui-ci. Il y a le niveau des portes étrangères irrégulières qui font des casses au Congo, qu'il faut régler pacifiquement, pas par la guerre. On peut négocier avec elles, leur demander d'abord de quitter le Congo. C'est des éléments de ces forces étrangères qui veulent rentrer au Rwanda, peuvent rentrer. ceux qui ne veulent pas rentrer, on peut les déplacer. Comme ça, on peut donner au niveau de respirer et en même temps de résoudre le problème des réfugiés, tous ceux qui sont installés ailleurs. On aura enlevé à Nkunda deux motifs de sa révolte. Le troisième motif, c'est son sort. C'est quand même un excellent officier. Il a fait ses preuves. Il résiste, c'est qu'il est très bon. On ne va pas le perdre plutôt que le dire aux extrémistes. On doit le récupérer. De la même manière qu'on a récupéré Peter Karim et Ngoudjolo. Ça, c'est trois. Deuxième élément maintenant, le problème congolais. Nous sommes des pacifistes. Nous venons des élections pacifiques. Quoi. Nous n'allons pas commencer à nous taper dessus pour que je dise à qui. On ne va pas tuer les Congolais pour que. On va négocier. Mais ça dépend du temps. Parce que si, écoutez, quel est le danger? Aujourd'hui, on force. On défonce l'avant-garde des forces du Congo. C'est-à-dire, on pense des populations aussi qui protègent. Et il y a massacre. Il s'agit des génocides. Et on peut massacrer.
Mais Fidel, mais là où il y a eu, dans certains endroits où étaient stationnées les troupes de Laurent Nkunda, on a constaté évidemment des fosses communes. Ils ont tué.
Écoutez, pendant la guerre, il y a des faits de guerre. Il peut y avoir des massacres. Il a pris les armes pour se défendre et défendre des Congolais. Ça, c'est un. Pas des Congolais, pas des étrangers. Deuxième élément, l'élément maintenant international. N'oubliez pas qu'il y a le Rwanda, là, qui est derrière, qui surveille, qui a un problème de sécurité intérieure menacé par les Ukrainiens. Alors, maintenant, si vous levez mal ce problème, vous avez les Rwandais avec vous et ce soutien diplomatique. Donc, attention, il faut faire attention à ce problème. Ce n'est pas parce qu'on est Nkunda. Et puis, on aura massacré des populations congolaises et ça fait un massacre pour rien. Pour protéger qui? Pour les acquis. Donc, l'option militaire est la plus mauvaise. Il faut pousser sous l'option de la négociation et on peut y parvenir.
Jusqu'à quand? Je passe la parole à Simon Kabamba.
Oui,
vous êtes d'accord avec Fidel?
Non. Je ne peux pas être d'accord avec Fidel lorsque il affirme qu'il faut continuer à négocier indéfiniment. Mais peut-être que Fidel Moussa, on n'a pas eu l'opportunité ou la chance de descendre sur place. Il n'y a pas longtemps, je reviens du Rwanda en passant par le Nord-Kivu. J'ai eu à voir la situation de ces gens. Mes chers amis, c'est tout simplement révoltant d'accepter que plus de 500 000 personnes se retrouvent dans la brousse aujourd'hui, coupées de leur résidence habituelle, simplement parce qu'il y a un monsieur qui prétend défendre les Tutsis, comme vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire en quoi est-ce que les Tutsis étaient menacés d'extermination dans notre pays? Vous les avez dans toutes les institutions du pays. Vous les avez même parmi la haute hiérarchie de l'armée. Vous les avez dans les grandes entreprises ici à Kinshasa. Mais si la réclamation de Nkunda a été vidée de toute sa substance, on a démontré noir sur blanc que c'était une fausse accusation. Doit-on continuer à se soumettre, n'est-ce pas, à ces caprices des messieurs parce qu'il a des revendications?
Merci beaucoup, Simon Kabamba. Mathieu Mpoukou dit, le gouvernement rwandais a décidé de ne plus prendre en charge un ancien complice de Laurent Nkunda dans la prise de Bukavu. C'est monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Maurice Dandé, qui l'a dit au micro de Radio Capi. Donc, le Rwanda a décidé de ne plus soutenir ou subvenir aux besoins du colonel Jules Moutebouti. Est-ce un message que lance Paul Kagame à Joseph Kabila pour lui dire que lui aussi devrait faire un signe contre la menace que constituent les rebelles hutu-rwandais présents en RDC?
En fait, merci beaucoup. Je voudrais d'abord se dire d'abord que c'est une déclaration d'intention parce que le Rwanda n'a pas commencé à nous narguer, à nous donner soi-disant des signes de bonne volonté. Et moi, je crois que cet élément où la décision de Rwanda de ne plus appuyer les hommes de Nkunda, ce n'est qu'une
cause de... Jules Moutebouti, le colonel Jules Moutebouti, qui était un complice de Nkunda dans la prise de Bukavu en 2004.
Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il aurait fallu que le Rwanda aille jusqu'au bout de ne plus soutenir Laurent Nkunda. Et c'est ça la vraie question plutôt à laquelle on devrait trouver des solutions. Quand on dit on ne veut plus soutenir Jules Moutebouti, mais dans l'entretemps, on n'a pas créé autant de Moutebouti. Moi, je crois le gouvernement rwandais doit prouver que réellement, il est là pour la sécurité dans les grands lacs. Il est là pour l'intangibilité des frontières. Jules Moutebouti, c'est un maillon parmi... tant d'autres dans la chaîne de Nkunda, donc il faut qu'il aille jusqu'au bout de ne plus soutenir Nkunda et voir le grand lac, l'est du pays, être pacifié.
Merci beaucoup. On me signale que Francis Waboute est maintenant en ligne. Francis, bonsoir.
Bonsoir, chers amis.
Vous avez participé à la deuxième partie de cette émission, des exercices de simulation des opérations de maintien de la paix, appelées Barrel Gazelle 2005, se sont déroulées dans la localité de Moussoro, à 250 km de N'Djamena au Tchad. Des troupes de 10 pays de l'Afrique centrale ont participé à ces manœuvres, exception en fait des troupes du Rwanda, ce pays s'étant déjà retiré de la CEAC. Il faut noter que les troupes du Togo ont participé à titre d'invité. Écoutons le général Dila de l'armée tchadienne, qui était membre du staff ayant coordonné ces exercices militaires.
Le regroupement, par exemple, pour le cas actuel, le regroupement, on a des pays qui ont des moyens de transport aérien. Par exemple, il y a l'Angola qui a mis un avion qui a permis de transporter les contingents angolais d'abord, les contingents du Congo-Brazza et les officiers d'état-major de la RDC qui sont venus ici à N'Djamena. Donc, chaque contingent reste dans son pays. Et pour le moment, cet état-major qui est à Libreville, mais les contingents ont fait une brigade en attente. C'est-à-dire, bon, les Allemands, on connaît les mêmes unités, ils restent dans leurs armées, mais quand on a besoin de ces unités, on leur fait appel.
Francis Waboute, les troupes du Congo-Brazza ont aussi participé à ces exercices militaires de maintien de la paix dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comment interprétez-vous ces premières manœuvres des troupes de cette partie de l'Afrique?
Il faut dire d'abord d'entrée de jeu que c'est une initiative qu'il faut saluer. Saluer dans le sens où vous savez que l'Afrique centrale, je ne citerai pas les pays, la plupart des pays étaient confrontés à des conflits, à des crises internes, à d'énormes problèmes. Et chaque fois qu'il s'était agi d'engager des troupes, chaque fois que les pays devaient envoyer des troupes dans ces différents pays, malheureusement, il se posait un problème à la fois de coordination de ces troupes, mais surtout du niveau de préparation de ces troupes qui devaient aller intervenir dans le cadre du maintien, sinon du rétablissement de la paix. Donc moi, je me dis que cette volonté, que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont eu de conjuguer leurs efforts, de mettre ensemble une force, je dirais pas hybride, mais enfin une force multinationale qui devrait assurer la paix est à saluer, dans la mesure où je pense qu'à ce niveau-là, on a pu quand même mettre ensemble un certain nombre d'expériences, un certain nombre de moyens. Le grand problème qui se pose, c'est il y a la formation, c'est vrai, mais il faut également que les États qui ont accepté de travailler dans ce sens-là mettent la main dans les poches pour débloquer des fonds, pour qu'on puisse doter cette force-là de la logistique nécessaire, des moyens nécessaires, afin qu'elle soit assez mobile, très mobile même, chaque fois que les problèmes vont se poser dans un pays ou bien dans un autre.
Francis Waboute, est-ce que lors de la création de la CEAC, il y avait aussi un volet militaire ou c'est plutôt suite à l'instabilité de cette région de l'Afrique qui s'est manifesté ce besoin d'une force au niveau de l'Afrique centrale?
Non, vous savez que tout est dynamique. Hein. Je pense que la CEAC n'a fait que s'accommoder des exigences actuelles, c'est-à-dire de la réalité actuelle qui se présente au niveau de certains pays. C'est vrai qu'à l'époque, la démarche, les objectifs étaient beaucoup plus économiques que militaires ou sécuritaires, mais avec le temps, on se rend compte que la plupart de nos pays ont des véritables problèmes de sécurité, des problèmes de conflit, et ces problèmes-là empêchaient justement leur développement économique. Donc, ceci n'a été qu'un rattrapage de la situation, sinon une façon de s'accommoder, comme je l'ai dit tantôt, d'être un peu plus pragmatique, de faire face aux enjeux de l'heure, aux défis actuels, qui sont purement et simplement des défis militaires, des défis sécuritaires.
Fidèle Moussangou, est-ce que l'Afrique centrale a aujourd'hui besoin d'une force comme celle de l'ECOMOG en Afrique de l'Ouest, qui est notamment intervenue dans des conflits comme ceux de la Sierra Leone?
Nous avons affaire à des États qui sont faibles sur le plan interne. Tous les États de l'Afrique centrale, je prends l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, à part la Tanzanie, l'Angola, le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, ce sont des États qui sont faibles, issus des putsch, et qui ont fini par organiser des élections. Tous, sans exception, à part la Tanzanie et la Zambie. Tous, c'est des régimes putschistes. Maintenant, ces régimes putschistes sont en train de développer une dialectique militariste. parce que se sentent menacés. Alors, dès lors que demain, un vaincu d'hier s'organise et une rébellion, vous allez l'attaquer avec quelle force? Et puis, il n'y a pas de moyens. On n'a pas les moyens, on n'a pas les transports. Écoutez, on n'a pas d'avion pour transporter les troupes congolaises pour les amener dans un champ d'opération au Tchad.
On a les avions angolais qui ont transporté les, et les militaires du Congo, Brazzaville et ceux du...
Il y en a combien? On peut le descendre. On peut le descendre. À quoi bon aller intervenir au Tchad? Ce qu'il faut faire, ce financement aurait pu servir au renforcement
de la démocratie. Ce n'est pas une intervention au Tchad, c'était des exercices militaires de maintien de la
paix. Oui, c'est pour faire peur aux gens, pour dire voilà comment nous allons faire si vous vous révoltez. C'est tout. Parce qu'on aurait pu faire l'économie de cet argent pour renforcer les démocraties. Pour dire maintenant, et quitter la dialectique militariste et enlever la dialectique démocratique. Résoudre pour par le dialogue. Et consolider la démocratie, donc payer les fonctionnaires, payer les militaires, remettre le pays sur les rails, restaurer l'état de droit. Là, on n'aura pas de révolte. Mais si vous continuez à brimer les droits de l'homme, à brimer la démocratie, vous créez des rébellions. Alors, si jamais demain il y a un coup d'état, pour un exemple, à Centrafrique, on descend vos idées, et le Congo va intervenir, pour faire quoi? L'Angola va intervenir, pour faire quoi? Et ça le regarde? Bon, la force internationale, ça n'a pas de sens. C'est une façon de perdre de l'argent. Et dans les cas de la CAC, j'ai toujours dit, c'est une organisation bidon. Je suis désolé que mon président soit un président malgré. Vous allez voir, il va passer son mandat à rien faire.
Merci beaucoup, Fidèle Nsangou. Simon Kabamba, est-ce que vous êtes du même avis?
Je ne peux pas être pessimiste comme Fidèle.
Est-ce que c'est pour faire peur aux gens, notamment aux opposants, que cette force multinationale de l'Afrique centrale est en train d'être créée?
Je ne crois pas. D'ailleurs, les opposants en Afrique... C'est l'Occident qui est tout le temps en train de les fabriquer. Moi, je soutiens l'initiative. Vous savez, la démocratie, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une force dissuasive, elle finit par s'écrouler. Pourquoi vous prenez les grandes démocraties comme les États-Unis, la France et d'autres pays que vous connaissez? Tous les jours ici, tout ce pays renforce leur armée. Et c'est pour dire qu'ils sont en train de brimer à longueur de journée les opposants? Pas du tout! Pas du tout. On sait qu'un monsieur comme Laurent Kounda peut s'élever dans son coin et vouloir narguer 60 millions de peuples, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si vous avez une vraie armée, même si elle doit venir de l'Afrique centrale, ce monsieur va réfléchir deux fois avant de prendre l'arme et venir se jouer d'un processus qui aura coûté autant d'argent et autant de sacrifices. L'une des faiblesses qu'on a reprochées à l'Afrique centrale, c'était de manquer une force. Regardez aujourd'hui la SADC. La SADC nous a sauvés avec son armée. C'est parce que ils avaient déjà compris depuis longtemps qu'il fallait une armée qui arrive, n'est-ce pas, à casser toute allure qui viendrait d'un certain rebelle ou d'un certain monsieur qui s'élèverait matin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des bienfaits de cette armée-là. L'Afrique centrale doit se rattraper, même si c'est un peu en retard, doit se rattraper, doit avoir une armée. Pourquoi l'Union européenne a une armée? Pourquoi les États-Unis ont une armée? Donc, aujourd'hui, nous, on va rester là simplement en train de pleurnicher. Il y a rébellion à gauche, rébellion à droite. Non! Il est temps qu'on s'élève et qu'on prenne cette initiative en lui donnant bien sûr des moyens.
Merci beaucoup, Simon Kabamba. Mathieu Mpoukoudi, je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, par exemple à Matadi, au Bas-Congo, et vous intervenez au téléphone depuis cette ville. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens, comme l'avait dit aussi notre confrère Francis Wabous, qui intervient depuis Brazzaville? Est-ce que l'Afrique centrale a des moyens pour déployer ses hommes dans des terrains d'opération? Est-ce que ce n'est pas un simple rêve? Parce que on ne peut pas oublier le fait que l'Union africaine avait aussi promis d'envoyer des troupes à l'est de la RDC pour désarmer de force les Interahamwe, mais cela n'a pas été fait. Et déjà au Darfour, les troupes de l'Union africaine manquent de moyens.
Oui, c'est vrai, il se pose un problème de moyens dans la mise en œuvre d'une force sous-régionale au sein de l'Afrique centrale. Mais ce qui est important pour le moment, c'est d'avoir pris l'initiative de créer une force militaire. Et à mon avis, moi je crois que toutes les parties ou tous les États membres doivent mettre la main dans la poche, comme l'a dit le conseil Wabout, pour contribuer efficacement pour que cette initiative ne soit pas un mort-né. Et moi, ma prière, c'est celle-là. Parce qu'en fait, comme l'a dit le confrère Simon, il ne faut pas que quelqu'un se réveille un matin, il dit non, je dérange tel gouvernement, je dérange tel pouvoir. Non, c'est pas en fait en créant une force sous-régionale qu'on va installer des dictatures dans tous les pays. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous avons salué les interventions de la SADC. Et qu'est-ce que notre confrère dirait de l'OTAN? Vous voyez, donc, il ne faut pas tout simplement être pessimiste, voir les choses du mauvais côté, et pour croire que si chez les autres ça marchait, chez nous ça ne marchera pas. Non, moi je crois que c'est le temps maintenant pour que les choses réellement changent, pour que la démocratie s'enracine en Afrique et que les droits de l'homme soient respectés.
Merci beaucoup, Mathieu. Pour qu'on dit Francis Wabout, la RDC a de gros problèmes de sécurité dans sa partie est, notamment Nord Kivu. Que peut-elle attendre de cette force militaire commune de l'Afrique centrale?
Merci une fois de plus. Je profite pour dire à mon confrère qui était intervenu, qui affichait ce pessimisme. C'était important pour lui dire que vous savez que toute démocratie a besoin d'une armée pour mieux s'asseoir, pour mieux s'enraciner. Voilà comment ça se passe en Europe. Il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est quand même, a été mise en place par les grandes démocraties, par des démocraties traditionnellement assises. Dans le cas de la RDC, par exemple, vous voyez que la RDC vient aujourd'hui de s'engager dans un processus démocratique. Mais monsieur Laurent Kunda, le général Laurent Kunda, qui est en train de mettre le feu au niveau de l'Est de ce pays, est-ce qu'il est démocrate? Est-ce que c'est parce que la RDC manque de démocratie qu'aujourd'hui la RDC se replonge encore dans cette situation d'insécurité? C'est pour dire que la RDC peut aujourd'hui compter sur cette force-là qui a été mise en place pour vivre vraiment les moyens, vu qu'aujourd'hui également la Monique qui est sur le terrain n'arrive pas à aider la RDC à sortir de ce cercle vicieux. Donc je pense que si les chefs d'État peuvent coordonner leurs efforts, s'ils peuvent se soutenir, s'ils peuvent doter cette force de beaucoup d'éthique, de beaucoup de professionnalisme, surtout lui garantir la logistique nécessaire, elle peut aujourd'hui se mouvoir en RDC, un peu comme elle a fait en RCA, pour rétablir la paix avec toutes les conditions de respect des droits de l'homme, de respect des libertés des populations, et c'est ce que l'on fait. Donc je pense que la RDC a vraiment intérêt à se mettre dans cette dynamique afin que certainement c'est pas, parce qu'on ne sait pas si on sait que la paix en RDC peut aussi passer par cette force ici.
Merci beaucoup, Fidèle Moussangou. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de rédaction du quotidien Le Phare par ici en Kinshasa. Est-ce que vous êtes du même avis que Francis que la RDC peut recevoir quelque chose de cette force multinationale de l'Afrique centrale en termes de stabilisation de sa partie est qui est insécurisée?
Non. Il faut régler nos problèmes nous-mêmes. Nous avons le moyen, nous avons le plan. Mais l'accord de Saint-Sécy a prévu de voler militaires, de la réorganisation de l'armée. Tout ça est prévu, il faut y aller doucement. Mais la force africaine est dans un coin. D'abord, est-ce qu'elle connaît la topographie de ces gens? Mais ils vont se faire massacrer là. Ils vont crever de pain, de quoi? Ils n'ont pas cette moyen. Le problème congolais doit être résolu d'après un plan fixé par l'accord de Saint-City, surtout le volet militaire, pour la formation d'une armée nationale et réellement républicaine. Alors, cette force africaine-là, il faut attendre deux générations pour en avoir, parce que quand on aura consolidé les finances, quand on pourra dégager de l'argent pour dire ça, on peut pour la force africaine. Pour le moment, on n'a pas assez d'argent. Le peu qu'on a, il faut l'utiliser à bon escient pour renforcer l'état des droits, pour renforcer la démocratie, pour payer les fonctionnaires, payer les militaires, payer les policiers, payer les agents des services de sécurité et les former. Voilà le peu d'argent. On a un budget de 3 milliards de dollars. C'est et vous allez donner quoi? 500 millions, pourquoi? On peut l'utiliser pour mieux payer. Cette force africaine attendra deux générations. On ne sera plus là. Quand on aura dégagé des finances saines, quand on aura assaini la démocratie en Afrique et au Congo.
Merci beaucoup, Fidel Moussang. Simon Kabamba, est-ce que vous pensez que c'est une initiative africaine ou c'est une initiative venant peut-être de l'extérieur de l'Afrique et qui est en train de...
Non, c'est une initiative africaine dans la mesure où l'Occident voudrait, par exemple, qu'on soit toujours en train de recourir à ces initiatives du genre, ce qu'on a vu ici avec les Français, avec les Allemands.
Et puis les pays occidentaux deviennent de plus en plus réticents pour envoyer leurs troupes dans des opérations militaires en Afrique.
La situation au Darfour où les Blancs ne veulent pas envoyer leurs frères se faire massacrer. Et moi, je me dis, nous avons tout intérêt à ce que ça réussisse. Ça va être quelque chose qui va être compté, n'est-ce pas, dans les bénéfices de la RDC, dans la mesure où Joseph Kabila est aujourd'hui président en exercice de cette structure. Et ça ne fera que du bien à la RDC pour avoir, n'est-ce pas, pensé à créer une force dissuasive en Afrique centrale.
Voilà, merci beaucoup Simon Kabamba. Nous allons passer à notre troisième sujet. Une conférence ministérielle de la francophonie s'est tenue cette semaine à Vientiane, capitale de la République démocratique du Laos, un pays de l'Asie du Sud-Est. La RDC qui a participé à cette rencontre demeure candidate pour abriter le 11e sommet de la francophonie en 2010. Le ministre d'État Moussa Niamoussi a demandé et a reçu le soutien de plusieurs États francophones sur la tenue à Kinshasa du prochain sommet de la francophonie. Écoutons d'abord cette lecture de l'actualité faite par notre consoeur Belinda Boussouma.
Le ministre d'État Moussa Niamoussi a au cours de cette rencontre réaffirmé la détermination de la RD Congo à défendre et à promouvoir la langue française et a ajouté que le français est consacré langue officielle par la constitution du pays. Il a aussi affirmé que le gouvernement congolais accordera un grand intérêt à la réalisation de la programmation 2008 de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour ce faire, il a fait savoir que la RDC compte encore sur l'appui de la grande famille francophone pour le parachèvement au niveau local du processus électoral en RDC. En ce qui concerne le soutien de la candidature de la RDC à l'accueil du prochain sommet de la francophonie, le Congo-Brazzaville et la France ont exprimé leur appui par leurs représentants à ces assises. Il s'agit notamment du ministre des Affaires étrangères pour le Congo-Brazzaville et du représentant personnel du président Sarkozy en ce qui concerne la France. La question d'un quelconque appui du Congo-Brazzaville à la candidature de la RDC ne se pose pas, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Basile Ikwebe.
Mathieu Mpoukoudi, quels sont les enjeux pour la RDC d'organiser un tel sommet en 2010?
Oui, d'abord, je voudrais dire que notre pays est un grand pays francophone avec ses 60 millions d'habitants, ce qui lui vaut quand même une place de choix au niveau de la francophonie. De deux, nous sommes une grande nation et que au-delà de la francophonie, il y a des enjeux majeurs, notamment au niveau de l'appui. Donc, moi, je crois que le Congo, la RDC, a beaucoup à gagner en organisant la 11e session de la francophonie à Kinshasa.
Merci beaucoup. Notre consoeur Belinda Boussouma a parlé de l'appui de votre pays pour que la RDC organise ce sommet de la francophonie en 2010. Pour quelle raison votre pays soutient la RDC?
Vous savez que notre pays a tout intérêt à soutenir la RDC dans tout ce qui peut l'engager. D'abord, vous savez, nous avons une longue frontière et tout ce qui touche la RDC négative a des retombées au niveau du Congo-Brazzaville. Et moi, je me dis qu'après cette longue traversée, cette longue période faite de crise, faite de conflits que la RDC vient de traverser, et maintenant que la RDC revient dans le cénacle des nations, des grandes nations, moi, je me dis que la RDC a tout intérêt à recevoir ce grand sommet des pays francophones, vu que je ne reviendrai pas sur le pas démographique que vient de balancer notre prophète qui est intervenu tout à l'heure. Mais la RDC, c'est un grand pays, du moins au niveau de l'Afrique, avec l'Algérie, mais même au niveau mondial, au niveau de la planète, la RDC avec l'Algérie et peut-être la France elle-même compte parmi les grands pays qui devraient aujourd'hui tenir le peloton de cette francophonie. Donc, le Congo-Brazzaville a tout intérêt à soutenir, vu que la RDC revient dans la grande famille de la francophonie, ça sera un autre grand bénéfice aussi. Parce qu'entre-temps, vous n'oubliez pas que beaucoup de discrédits, beaucoup de choses antiédites, négatives en tout cas sur la RDC, sur le fait qu'elle n'était pas très présente dans cette grande famille de la francophonie. Je ne sais pas si mes chiffres sont bons, si j'ai encore les dates en tête. Vous savez qu'il y a beaucoup de sommets auxquels la RDC n'avait pas participé, et ça évidemment, ça avait quand même suscité pas mal d'interrogations, pas mal d'inquiétudes aussi, au sein de cette grande famille de la francophonie. Donc maintenant qu'elle revient, avec cette sollicitation de recevoir, d'abriter le sommet, je pense qu'il faut saluer et soutenir.
Merci beaucoup Francis Swabout, Simon Kabamba, Je rappelle que vous êtes directeur à la radio RPGA, Radio-Télévision Groupe L'Avenir, émettant depuis Kinshasa vers les autres provinces de la RDC. Joseph Kabila a été élu récemment à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La RDC est candidate pour organiser ce sommet de la francophonie en 2010. Est-ce une volonté de la RDC de vraiment revenir sur le plan sur la scène internationale?
On sent que le pays a une détermination, n'est-ce pas, de revenir dans les concerts des nations. J'ai dit plus d'une fois ici que le Congo était complètement rayé sur la carte du monde. On n'était plus fréquentable, ça fait beaucoup d'années. On était même oublié. C'est ça qui a fait que même, vous allez me permettre de dire, les petits pays comme le Rwanda pouvaient se faire entendre dans les concerts des nations, faire accréditer facilement leur thèse plutôt que nous autres. On était ici à se lamenter, à pleurnicher, alors que les autres pays se rencontraient dans des forums et discutaient des problèmes qui se posaient dans leur pays. Moi, je crois que ce sont des efforts qu'il faut encourager la RDC qui est en train de reprendre, n'est-ce pas, sa place dans les concerts des nations. C'est en fréquentant les grands qu'on a l'occasion de dire, eh bien, écoutez, ce qui se pose encore sur moi comme problème, c'est ceci, voilà ce que moi je vous propose, et en retour, vous pouvez me proposer tel autre axe, que ce soit dans les volets militaires, dans les volets développement, ou sur tout autre domaine qui nécessite, n'est-ce pas, qu'on coopère avec les grands du monde. C'est en organisant des forums comme ça qu'on arrive à sortir. Aujourd'hui, vous savez, aucun pays ne peut se développer par lui-même, ne peut rester là à dire, moi je me suffis. Même si le Congo a toujours dit « je suis riche, avec autant de minerais ». Non, c'est en fréquentant simplement les autres que nos minerais peuvent avoir de la valeur. Donc, la francophonie, nous sommes très, très bien placés pour abriter, n'est-ce pas, les assises de la francophonie, dans la mesure où, avec nos 60 millions de gens qui parlent déjà français ici, nous venons, si je ne me trompe pas, après la France elle-même. Mais on a jamais senti cet appui de la France. Peut-être que cette fois-ci, en sollicitant cette organisation, la France va essayer de s'impliquer réellement dans les problèmes qui se posent dans notre pays.
Merci beaucoup, Simon Kabamba. Fidèle Moussango, est-ce qu'il est vraiment impérieux pour la RDC d'organiser un tel sommet?
D'un côté, il s'agit d'un source d'orgueil qui peut nous permettre de récupérer notre place au niveau de la communauté internationale. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde, 60 millions d'habitants. Nous devons donc récupérer notre place. Nous devons être lors des sommets africains. Joseph Kabila doit être juste à côté de Sarkozy. Pas relégué derrière avec le président du Burundi ou d'un pays francophone de l'Afrique occidentale. Parce que nous sommes 60 millions de francophones. Ça, c'est un. Ça, je suis d'accord. Deux, les infrastructures, nous les avons. Nous avons la cité de l'OIA, on fait une protectionnelle et les hôtels touristiques pour accueillir. En même temps, ça peut nous permettre de respecter la ville, d'embellir la ville, d'éviter la ville, c'est une bonne chose. Mais si, et maintenant, le préalable, c'est d'avoir commencé dès maintenant à payer les arriérés de nos cotisations dans les organisations internationales. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris que les dossiers des Congolais sont déclarés irrécevables au secrétariat exécutif de la CPGL. Parce que nous avons une ardoise de dettes là-bas. Donc il faut commencer par payer les dettes, payer nos diplomates pour être déclaré recevable et aussi qu'on peut être élu, éligible. Ça, c'est un. Et permettre à ce que le président Kabila soit juste à côté de Sarkozy quand il y a sommet et que Mbusse, le ministre des Affaires étrangères, soit en train de donner des coups de pôle à Kouchner. Pas quand il voit Kouchner, il se cache parce qu'il est endetté. Voilà le problème. Ça, c'est une bonne chose. Mais alors, il faut une détermination, il faut une politique courageuse. Vous comprenez là? Pour que le Congo reprenne sa place, nous avons beaucoup perdu depuis Mobutu et nous sommes restés comme ça inactifs. Donc voilà pourquoi je dis, je suis pour l'organisation de la francophonie. Mais attention, nous sommes à la veille de l'organisation de l'élection. Donc il ne faut pas nous tromper des cibles. Si nous plaçons tout l'argent pour le président de la francophonie, nous ne ferons pas organiser les élections en 2011. Parce que 2010, c'est début 2011, c'est le début des élections générales au Congo. Il doit se continuer toujours. Alors donc attention, d'où vient le financement? Je préconise que ce soit les autres qui financent l'embellissement et que notre argent nous serve à faire des élections. Que ce soit pas le fait de dire non, nous avons dépensé de l'argent pour la francophonie, il n'y a pas d'élection.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que cela soit récupéré politiquement pour certains candidats?
Non, ça risque d'être récupéré si c'est mal fait.
On sera à la veille des élections.
Évidemment, si nous prenons tout l'argent
nous mettons dans ce sommet de prestige qu'on appelle la francophonie. Et pour dire demain, non, Yann Divé n'a pas d'argent pour les élections, là, les candidats vont rentrer dans le pouvoir. Mais si on dit non, on n'aura pas d'argent, on dit on donne par exemple 50 millions. Mais les autres pays francophones, surtout la France, donne 50% et on peut organiser, et nos finances à nous servent à organiser des bonnes élections cette fois-ci.
Merci beaucoup, Fidèle Moussango. Mathieu Poukoudi, notre conseiller Belinda Boussouma, dans son papier, a parlé du soutien de la France, notamment à la candidature de la RDC, c'est-à-dire que le Congo est redevenu fréquentable.
Oui, tout à fait. Vous rappellerez, contraire, qu'il y a bien une décennie, nous étions relégués à des positions pratiquement minimisables, où nous étions pratiquement considérés comme des pestiférés. Mais ce sont les autres des nations qui apparemment ne pèsent pas, qui étaient plutôt logés aux premières enseignes. Donc moi, je crois que les temps...
Pestiférés, c'est quand même trop fort, hein, quoi.
Oui, mais je crois que le temps est venu pour la RDC d'être logée à la première enseigne en tant que grande nation francophone du monde.
Merci beaucoup, Francis Wabout. D'après vous, est-ce que le Congo, la République du Congo, d'en face a déjà organisé un sommet de la francophonie?
Non, pas encore. Au contraire, pour nous, c'est un privilège que la RDC puisse l'organiser. C'est vrai que nous n'avons jamais organisé un tel sommet, mais ça ne nous a pas empêché d'être très présents lors de tous les sommets qui sont organisés là. Ça ne nous a pas empêché de faire entendre notre voix. Et de la même manière que nous avons toujours soutenu tous les autres pays avec lesquels on a des bonnes relations, dans ce sens-là, tous ceux qui ont cette volonté d'organiser ce sommet. Vous savez que nous-mêmes également, comme vous, nous venons de une longue période en fait de crise, en fait de conflit, en fait de guerre civile, je pourrais dire.
Mais excusez-moi, Francis, Auguste, d'après vous, quelles retombées politiques, économiques, la RDC pourrait tirer de l'organisation sous son sol de ce sommet de la francophonie?
Le premier avantage, c'est lequel? C'est qu'en abritant un tel sommet, la RDC aura l'occasion, plus que jamais, d'échanger directement avec tous les autres pays. Peut-être même qu'au sortir d'un tel sommet, la RDC peut proposer des échanges économiques, de tout ce qu'elle a comme richesse avec les autres pays, avec la France, avec tous les autres pays africains. C'est un peu cela en termes de retour. Mais maintenant, au niveau politique, ça va être la RDC en ce temps qu'elle a dit ici, elle n'était plus fréquentable, elle était rejetée au second plan vu qu'elle traversait des conflits, vu qu'elle était certainement classée au niveau 4 sur l'échelle de sécurité. Mais ce sommet vient réhabiliter la RDC dans le grand concert des nations, je l'ai dit, et cet avantage politique sans à négliger, vu que la politique peut drainer, peut comme ça susciter un déclic au niveau économique, au niveau financier, même au niveau social.
Merci beaucoup. Vous partagez le même avis. En 15 secondes, on peut tirer des dividendes politiques de l'organisation de ce sommet, Fidèle Moussango, en 15 secondes.
Il y a d'abord le prestige de souveraineté internationale. Il y a aussi le fait que nous marquons le convoi de Jean-Brésien sur le loyer 67. Vous rappelez, la crise loyale, et même pas maintenant au niveau de la population, c'est que le Congolais reprend sa place. C'est un prestige social. En même temps, il y a du travail. La préparation, la maintenance, et même après. C'est du travail pour le Congolais, en même temps de prestige, ça nous permet maintenant d'obtenir des visas facilement. On nous prendra en sérieux.
Merci beaucoup. C'est avec vous, Fidèle Moussango, que nous terminons cette tribune de la presse. Merci à mes confrères d'avoir analysé les grands faits d'actualité au cours de cette tribune de la presse. Pour mes trois confrères congolais, c'était leur quatrième et dernière émission avant de faire participer aussi d'autres confrères la semaine prochaine. Je les remercie donc sincèrement pour leur participation assidue pendant 4 semaines. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Kéline Kouté était à la réalisation et Paulin Mounkeou à la mise en onde. Au revoir et bon week-end.